Chers frères et sœurs, nous n'avons hélas aucun mal à trouver une actualité à ces deux faits divers, comme on dit, qui sont rapportés à Jésus dans l'Évangile. Ces 50 musulmans sauvagement assassinés à Christchurch alors qu'ils priaient le Dieu unique, en vertu de la foi abrahamique qu'ils se reconnaissent, étaient-ils plus coupables que les autres? Les paroles de Jésus nous interrogent profondément, interrogent notre manière d'écouter, notre manière de lire le monde, les événements si souvent dramatiques, de lire aussi les Écritures. Ce que suggère Jésus, c'est qu'il y a sans doute une lectio divina des événements, des drames. Les événements du monde, les événements de notre vie sont ramenés à l'insignifiance avec le temps qui passe, avec l'oubli, dès lors que nous ne savons pas les relier à l'histoire d'alliance que le Seigneur noue avec nous à travers eux. Pour entrer dans une écoute renouvelée de ces événements, de la parole, la première chose à faire est sans doute un pas de côté, nous soustraire un instant à cette avalanche incessante de nouvelles, plus souvent bonnes que mauvaises, que l'on a du mal à appeler information, que l'on nous distille entre un divertissement et une page de publicité. Que se passe-t-il dans notre cœur, lorsque nous sommes confrontés dans notre vie, dans les événements du monde, dans notre chair, au mal qui semble dominer dans notre monde? Ce que lit Jésus dans le cœur de ses disciples, c'est une manière de se disculper. Ils étaient plus pécheurs, sans doute. Et surgissent là nos vieilles idoles d'un Dieu vindicatif, justicier, dans lequel Jésus ne reconnaît pas son Père, le Dieu tendre et miséricordieux que nous avons chanté dans le psaume. Notre cœur, face au drame qui nous touche, cherche désespérément une explication. Et la meilleure explication pour nous aujourd'hui, dans notre société, c'est un coupable. La tour de Siloé, elle devait avoir un architecte ou de mauvais ouvriers. Si souvent, le coupable idéal, c'est l'absent. Les absents ont toujours tort, dit-on, et Dieu fait un coupable idéal. Où était-il à Christchurch? Où était-il à Auschwitz? Où est-il aujourd'hui, quand cette petite fille va être emportée dans quelques jours par une leucémie? Où est-il devant la mort d'un proche, un accident absurde? Où est-il, ton Dieu? Ces cris, frères et sœurs, sont légitimes. Ces cris, Dieu nous les donne. Dans le livre des Écritures, nous sommes payés pour le savoir, comme moines. Nos psaumes, chantés jour et nuit, sont pleins de ces cris. Que fais-tu, Dieu? Où es-tu? Réveille-toi, mon Dieu. les cris de Job, bien sûr. Mais ce que notre cœur désire profondément, c'est beaucoup plus qu'une explication. Notre soif, c'est une soif de sens. Le pape François vient de nous le rappeler dans les douloureux événements que les médias nous rapportent à satiété, ces crimes perpétrés dans l'Église. Où était-il Dieu quand, dans le confessionnal, le ministre de la Miséricorde a fait violence, a abusé de l'innocence, de la faiblesse de sa victime? Nous sommes, oui, révoltés. Nous sommes indignés. Nous demandons justice. Et tout cela est fort légitime. Mais nos sentiments d'indignation, notre horreur, sont assez éphémères. Notre demande de justice risque de tourner court, de tourner au règlement de compte. Que répond Jésus? Et nous sommes surpris de cela. Convertissez-vous. Ça nous semble un peu court face au drame du mal qui nous atteint dans notre chair, dans notre foi. Convertissez-vous. Jésus met le doigt là où cela fait mal. Il met le doigt là où est le mal. Le mal, frères et sœurs, c'est saint Paul qui le dit, est un mystère, ce mystère d'iniquité dont parle saint Paul, dont a beaucoup parlé saint Jean-Paul II. Un mystère, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous en dire exempts. Nous y sommes empêtrés. Nous ne pouvons pas en faire un objet d'explication satisfaisante, rassurante. Ce qu'il nous faut, c'est un sauveur. Ce qu'il nous faut, c'est nous tourner vers celui qui n'est pas venu apporter une explication. Devant l'aveugle-né, Jésus dit bien, ce n'est ni ses parents, ni lui-même qui a péché et qui lui vaut d'être aveugle, mais c'est pour que soient manifestées les œuvres de Dieu. Oui, notre monde, notre vie, marquée par le mal, est le lieu où Dieu veut écrire ses merveilles. La Lectio Divina nous apprend à voir toute chose en Dieu et à voir Dieu en toute chose. C'est un lieu exigeant. Ce n'est pas seulement un face-à-face idyllique, amoureux. C'est le lieu du combat, de la foi. Nous convertir, resituer notre vie en lien avec celui qui en est la source, l'origine et le but. Vous connaissez sans doute cette jeune fille juive, Etty Hillsum. Au cœur de l'horreur du système concentrationnaire nazi, Etty avait choisi de regarder en face ce mal qui l'atteignait dans ses plus proches, dans sa chair. Elle dit, la faim, la mort, j'ai choisi de la regarder en face et de lui faire une place dans mon sentiment de la vie. Et le paradoxe, c'est que qui refuse de faire cela ne vit plus qu'une pauvre petite vie atrophiée. Sauver sa vie par soi-même, c'est la perdre. Nous tourner vers sa source, c'est consentir à être sauvé. Jésus est venu porter ce mal jusqu'en ses ultimes conséquences. Il est venu porter et ouvrir ouvrir un chemin de Pâques dans ce qui nous écrase et nous désespère. La petite parabole de Jésus dit au fond la même chose que le double appel à nous convertir. Jésus nous parle de cet homme qui a planté une vigne et qui a un figuier dont il attend du fruit. Pour les auditeurs de Jésus, c'est limpide. Jésus invite à rouvrir le livre de l'Alliance de ce Dieu qui a créé toutes choses par amour et pour l'amour, qui a choisi un peuple. Oui, ouvrir le livre, nous reconnaître humblement pèlerins de la foi à l'école de ce peuple qui nous a devancés dans l'Alliance. Sur ce pèlerinage, le buisson ardent est évidemment une étape décisive. Mystère de ce Dieu qui se révèle dans ce feu qui brûle sans consumer. Des préoccupations philosophiques nous ont fait lire ce passage comme un théorème métaphysique. Mais le nom que Dieu nous donne n'est pas une équation, n'est pas une belle explication théologique. Il est un mémorial, comme dit le texte. Je suis qui je suis, ou je suis celui qui suis. En hébreu, le verbe est à l'inaccompli. Ce serait plutôt « je serai qui je serai ». Il y a là une invitation, le don d'un nom qui est relation, la confession d'un désir de marcher, de faire un détour comme Moïse, de faire un pèlerinage au désert et au fur et à mesure du chemin apprendre à se connaître. Oui, Dieu se révèle dans le buisson et se révélera de manière définitive à Pâques. Dans ce crucifié qui a vaincu, noyer le mal par dans l'amour. La tradition chrétienne a toujours médité dans le buisson ardent le mystère de l'incarnation. Et c'est cela que nous allons fêter demain. Tout homme a pour vocation de devenir ce buisson ardent, cette humanité embrasée de Dieu, de l'amour sans fin. Et la petite parabole nous suggère que nous devons être les uns pour les autres, les jardiniers attentifs, enlever nos chaussures pour nous pencher aux pieds de nos frères, au sein de nos communautés, de nos familles, de la société, reconnaître la terre sainte qu'il est, le mystère, mais qui a besoin que l'on bêche un peu, que l'on travaille d'espérance, que l'on mette le fumier de la fraternité, de la confiance, pour que lui aussi laisse passage au feu du buisson.